L'Afrique et son faubourg, l'Inde sa banlieue, l'Amérique sa voisine. Slogan, à propos de la ville de Marseille, lors de l'exposition coloniale tenue dans cette ville en 1922.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de notre dernière émission, nous avions vu qu'une des premières motivations de l'expansion coloniale au XIXe siècle était liée à la soif de curiosité de bien des instituts géographiques, zoologiques, de botanique qui existaient en France et d'ailleurs en Europe. Nous allons maintenant voir quelles sont les autres motivations de cette expansion coloniale. D'abord, il y a une expansion liée à la question de la puissance internationale. Il est bien évident que les Européens qui dominent, je dirais, la technologie mondiale, qui sont maîtres des mers, qui vont bientôt être maîtres des airs et maîtres des chemins de fer, eh bien, ces Européens ont le sentiment qu'il faut effectivement s'étendre pour être présents dans le monde. La Grande-Bretagne mène cette politique, la Belgique également. L'Allemagne va s'y lancer dans les années 1880 et Jules Ferry, qui est un des grands défenseurs de l'expansion coloniale française, ne cesse régulièrement d'expliquer que si ce n'est pas la France qui s'étend, eh bien cela sera sans doute d'autres, alors autant que ce soit la métropole française. Il a d'ailleurs, en 1885, une série de discours où il défend la politique coloniale de la France, ce qui lui vaut d'ailleurs des volées de bois vert, en particulier de Clémenceau, qui ne se reconnaît pas dans le discours autour de race inférieure, race supérieure, concept manié par Jules Ferry. Alors évidemment, cette expansion mondiale peut créer des tensions, parce qu'effectivement, il y a une concurrence qui ne va jamais cependant totalement aboutir à un conflit armé. Voici par exemple quelques-unes des concurrences qui ont provoqué des crises entre puissances européennes. En 1881, entre la France et l'Italie, il y a de fortes tensions à propos du protectorat sur la Tunisie, finalement que la France va pouvoir imposer. L'année suivante, en 1882, il y a des tensions entre les gouvernements britanniques et français à propos de l'Égypte, puisque la Grande-Bretagne vient d'installer des troupes le long du canal de Suez, alors que celui-ci est géré par une association franco-britannique. De même, toujours avec la Grande-Bretagne, il y a l'incident de Fashoda, puisque la politique britannique et la politique française en matière coloniale vont se heurter dans la mesure où la première, menée par le gouvernement de Londres, vise à faire un axe nord-sud allant de l'Égypte jusqu'à l'Afrique du Sud, alors que la France veut mener une politique ouest-est qui permettrait finalement de rejoindre entre Dakar et Djibouti. Or, à Fashoda, deux missions se rencontrent, celle du commandant Marchand en particulier. La France, et sans doute de manière intelligente de la part de son ministre des Affaires étrangères Delcassé, va préférer se retirer pour ne pas aggraver des tensions qui pourraient finalement que profiter à l'Allemagne. Ensuite, il y a effectivement des tensions entre la France et l'Allemagne en 1905 et en 1911 à propos du protectorat sur le Maroc que finalement la France va pouvoir établir. Donc oui, il y a bien eu des tensions internationales liées aux questions coloniales, mais cela n'a jamais débouché sur un conflit armé. Ensuite, il y a un autre élément qui va d'ailleurs permettre à la France de développer son économie, c'est le problème des motivations économiques de l'expansion coloniale. Comme le disait Jules Ferry lui-même, la politique coloniale est fille de la politique industrielle. Mais là, il convient de peut-être battre en brèche une idée reçue. En fait, le capitalisme français s'est relativement peu intéressé à la question coloniale. Effectivement, les investissements dans l'Empire ont été relativement faibles jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les chiffres que je vais vous citer sont de 1913 et vous verrez que le secteur privé britannique est beaucoup plus actif et moins frileux que le secteur privé français en matière coloniale. En 1913, 47% des investissements britanniques dans l'Empire de Sa Majesté viennent du secteur privé, seulement 9% dans l'Empire français. 25% des importations britanniques viennent de l'Empire, seulement 9,5% des importations françaises. 37% des exportations britanniques vont vers l'Empire, seulement 13% des exportations françaises. Et là, effectivement, on voit bien qu'il y a une timidité, une frilosité de la part des entrepreneurs français. La question économique est modifiée quelque peu pendant l'entre-deux-guerres. Effectivement, on s'aperçoit que dans les années 20 et dans les années 30, il y a un développement indéniable de rapports économiques entre la métropole et la France. Pardonnez-moi de vous donner là encore quelques indices chiffrés, mais en 1929, presque 10% du caoutchouc utilisé par la France vient de l'Empire, c'est 25% en 1938. De même, 11% du riz vient de l'Empire en 1890, c'est 80% en 1929, c'est 94% en 1938. De même, concernant la part des exportations, l'Empire, et cela sans doute grâce à la crise des années 30, devient un marché de plus en plus important pour les produits français. En effet, 45% des automobiles sont destinés à l'Empire en 1938, de même que 84% du ciment qui est utilisé dans l'Empire, et de même que le sucre raffiné représente 98,5% de la production vers l'Empire. Donc, lors de l'entre-deux-guerres, l'Empire devient un marché économique qui prend de plus en plus d'importance. Quant à la Première Guerre mondiale, elle avait déjà montré aussi l'intérêt démographique de l'Empire. C'est peut-être même à ce moment-là que les Français se mettent à s'intéresser de près à l'Empire. Jusqu'à la Grande Guerre, l'opinion française n'était pas tellement passionnée par les affaires coloniales qui concernaient des milieux politiques et militaires. Par contre, avec la Grande Guerre, des troupes coloniales vont être utilisées sur le front français. Là, je vais être amené également à vous donner des chiffres assez précis, mais qui vous montrent tout de même l'ampleur d'une mobilisation humaine. 175 000 Algériens sont venus en France, 35 000 y sont morts. 80 000 Tunisiens, 21 000 sont morts. 40 000 Marocains, 12 000 sont morts. 180 000 personnes de l'Afrique noire, 25 000 sont tuées. 49 000 Indochinois, 1 600 tués. 41 000 Malgaches, 2 500 morts. Donc la France se rend compte à ce moment-là, et l'opinion en particulier, qu'il y a un intérêt militaire, stratégique, démographique à la possession de ces colonies. Et là où il y a effectivement un paradoxe, c'est que l'opinion française va finalement s'intéresser à l'Empire au moment où celui-ci connaît ses premiers craquements. Je m'explique. Indéniablement, à la fin de la Première Guerre mondiale, on peut avoir le sentiment que l'Empire français participe grandement à la puissance de la France dans le monde. Et en 1931, s'est tenue une grande exposition coloniale à Paris qui a amené environ 2 millions de personnes à venir dans la capitale pour visiter la reconstitution des temples d'Angkor, de pagodes, d'habitations musulmanes d'Afrique du Nord, de mosquées, etc. Or, c'est le moment où commence dans l'Empire des contestations. Il y a, au début des années 30, mené par le Parti communiste indochinois, les premiers troubles qui vont se développer à la suite de la Seconde Guerre mondiale. En Tunisie, Bourguiba commence à réclamer une véritable indépendance, même s'il veut garder des liens avec la France. De même, en Algérie, on observe à partir de 1933-1934 qu'il y a quelques tensions, qu'il y a des prêches dans certaines mosquées qui deviennent de plus en plus anti-français. Et donc que cet empire, qui est encore extraordinairement puissant en 1939, commence à être discuté, connaît ses premiers craquements. Or, en 1939-1940, une grande partie de l'idée de la puissance française reste l'Empire. Cet Empire qui, d'ailleurs, va être un enjeu entre l'État français installé à Vichy et la France libre du général de Gaulle, puisque celui-ci n'aura de cesse de contrôler de plus en plus les possessions coloniales de la France pour renforcer sa légitimité auprès des Alliés. Enfin, symbole presque des craquements à venir, le 8 mai 1945, alors que l'Europe fête et célèbre la capitulation du Troisième Reich, a lieu à Sétif des grandes émeutes qui sont réprimées sans doute dans l'indifférence de l'opinion française à l'époque, qui ont fait sans doute quelques milliers de morts, et le général Duval, qui avait été chargé de la répression, avait dit au gouvernement français « Je vous ai assuré 10 ans de paix en Algérie, mais faites des réformes pour éviter de nouveaux heurts. » Il ne fut pas véritablement écouté.